corasso.org.
Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose aujourd'hui un podcast consacré à l'ablation de la pyramide nasale. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le docteur Benjamin Verriot, ORL à l'hôpital Lariboisière à Paris, est avec nous. Bonjour docteur Verriot.
Bonjour.
À quoi sert le nez ?
Quand on parle du nez, en fait, on parle souvent de deux choses distinctes. La pyramide nasale, qui constitue la partie visible du nez, avec la peau, le cartilage et la muqueuse, et les fosses nasales qui se trouvent en arrière et qui ne sont pas visibles. Les fonctions sont différentes en fonction de la zone dont on parle. La pyramide nasale n'a pas de rôle majeur en dehors d'un rôle esthétique. En revanche, les fosses nasales ont un rôle dans la perception des odeurs, dans l'humidification et la filtration de l'air inspiré.
Quelles sont les différentes tumeurs malignes que l'on peut rencontrer justement au niveau du nez ? Est-ce qu'elles se situent plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Des tumeurs malignes peuvent se développer au niveau des deux parties. Aujourd'hui, on parlera surtout de la pyramide nasale. Certaines tumeurs se développent à partir de la peau. Donc sont les mélanomes ou les carcinomes basocellulaires ou carcinomes spinocellulaires. Et certaines tumeurs se développent plutôt à l'intérieur au niveau des muqueuses. Il y a un grand nombre de tumeurs. Les carcinomes épidermoïdes sont les plus fréquentes.
Comment se manifestent les symptômes ?
Le symptôme le plus fréquent, c'est l'obstruction nasale. Lorsque la tumeur se développe et va obstruer la fosse nasale, on peut éventuellement avoir d'autres symptômes, tels qu'un écoulement plus ou moins trouble ou éventuellement sanglant, et éventuellement des douleurs.
Qui consulter lorsqu'on découvre ces symptômes et qu'ils durent plusieurs semaines ?
Le plus simple est de consulter directement un ORL.
Pas spécialement en urgence ou ça a un caractère d'urgence justement ?
En général, s'il n'y a pas de saignement important, on peut consulter sans urgence, sans bien sûr retarder la prise en charge. Il faut que le rendez-vous soit dans un délai raisonnable.
Et c'est quoi un délai raisonnable justement pour vous ?
On pourrait dire éventuellement une quinzaine de jours.
Quand et pourquoi doit-on faire une amputation du nez ?
Si la tumeur se développe au niveau de la pyramide nasale, le traitement sera décidé de façon collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire. Mais le plus souvent, lorsqu'elle est possible, la chirurgie est la partie la plus importante du traitement.
Quelles sont les conséquences de cette intervention à court terme déjà ?
En fait, la pyramide nasale à proprement parler n'a pas d'autre fonction qu'un rôle esthétique. Et donc les conséquences sont pas forcément importantes sur le plan par exemple de la respiration, de l'odorat. En revanche, il y a une conséquence importante esthétique et donc psychologique pour le malade.
Qui pour le coup vont être à très long terme.
Qui vont être à long terme tant que aucune reconstruction n'a été effectuée.
Peut-on se moucher sans nez ? Et si oui, comment ?
En fait, si c'est uniquement la pyramide nasale qui a été réséquée, les fosses nasales derrière fonctionnent normalement et il reste possible de se moucher, de sentir, de respirer normalement.
Quels sont les différents moyens pour cacher justement une ablation du nez ?
Comme les conséquences esthétiques sont importantes, on propose pratiquement toujours une reconstruction d'une façon ou d'une autre aux patients. Il existe plusieurs types, plusieurs degrés de sophistication dans cette réparation. Dans les méthodes les plus simples, on va proposer en post-opératoire immédiat un pansement et ensuite ce qu'on appelle une épithèse, une prothèse, qui va reproduire la forme du nez, être le plus proche esthétiquement du nez original du patient. Si on veut effectuer une reconstruction à proprement parler, suivant le degré d'amputation qu'on a effectué, on va utiliser soit ce qu'on appelle des greffes simplement de tissu, soit des lambeaux qui peuvent être pédiculés, c'est-à-dire qu'on prélève des tissus vascularisés à côté du nez et on les bascule pour reconstruire le nez. Typiquement, on utilise la peau du front, ce qu'on appelle le lambeau frontal, ou éventuellement, on peut utiliser des techniques encore plus sophistiquées de lambeau libre, lambeau micro-anastomosé. Dans cette technique, on va prélever ailleurs, sur le corps du patient, un tissu vascularisé qu'on va, entre guillemets, brancher sur des vaisseaux à proximité du nez, et on va se servir de ce lambeau pour reconstruire l'esthétique du nez. Voilà, on se sert parfois, par exemple, de la peau de l'avant-bras. Voilà. La reconstruction du nez, c'est une chirurgie qui s'appelle la rhinopoïèse. C'est une technique qui est complexe, qui est faite dans les centres de reconstruction spécialisés et qui nécessite souvent plusieurs temps chirurgicaux. Il y a très souvent au moins deux temps chirurgicaux et des retouches qui peuvent être nombreuses et à adapter en fonction de l'évolution.
entre l'amputation et puis cette reconstruction justement dont vous nous parlez, combien de temps doit-on laisser passer ?
C'est une question vraiment importante. En fait, le but premier de la chirurgie, c'est de guérir le patient de son cancer. Donc, il est impératif d'avoir obtenu une sécurité carcinologique avant de se lancer dans une reconstruction. Donc, pour certaines tumeurs cutanées, on peut simplement faire une exérèse et attendre les résultats de l'examen anatomopathologique pour effectuer la reconstruction. Dans certains centres, la reconstruction peut être effectuée dans le même temps opératoire si l'analyse anatomopathologique est faite durant l'intervention. En revanche, pour d'autres tumeurs plus agressives, on va attendre d'avoir fait le traitement complet, en particulier la radiothérapie, s'il y a une radiothérapie post-opératoire, et avoir un recul suffisant de plusieurs mois, voire d'un an, avant de faire la reconstruction. Donc chez ces patients, dans l'intervalle, on proposera volontiers une épithèse.
Quel type de soins doit-on faire après une amputation et donc une reconstruction ?
Dans un premier temps, il faut simplement effectuer des soins locaux au niveau des berges de la cicatrice, au niveau des berges de la pyramide nasale. Et ce sont des soins qui sont relativement simples, où on va utiliser des compresses avec du sérum physiologique ou du désinfectant, et souvent un petit peu de pansement gras, par exemple avec de la vaseline, pour aider la cicatrisation à bien commencer.
Est-il possible d'avoir une alimentation nasogastrique ?
Rien ne s'oppose à la mise en place d'une sonde nasogastrique après une amputation de la pyramide nasale. Cela étant dit, dans une exérèse uniquement de la pyramide nasale, il n'y a aucune raison pour que le patient ne puisse pas manger normalement par la bouche. Donc on a rarement besoin de mettre une sonde nasogastrique en place.
Pour les anesthésies, comment ça se passe justement quand on n'a plus de nez ?
Il n'y a pas de conséquences particulières pour l'anesthésiste. Un anesthésiste utilise en général un masque qui est plaqué sur le visage pour administrer de l'oxygène au début de l'induction de l'anesthésie générale. Dans ce cas-là, le masque est appliqué sur le visage de la même façon que la pyramide nasale soit présente ou non.
Les patients ayant subi une ablation partielle ou totale de la pyramide nasale se plaignent souvent, dans les mois ou les années suivantes d'ailleurs, d'avoir les yeux qui coulent en permanence. Les canaux lacrymaux sont-ils donc susceptibles de se boucher plus facilement ?
Effectivement, la pyramide nasale se trouve à proximité anatomiquement de la voie de passage des larmes. Les larmes s'écoulent à partir de la surface des yeux par des petits canaux qui se jettent à l'intérieur des fosses nasales. Donc dans certaines chirurgies où on va devoir élargir un petit peu l'exérèse à proximité de ces zones, ou dans les suites d'une radiothérapie post-opératoire, il peut y avoir une dysfonction ou un rétrécissement de cette voie de drainage des larmes. Et les patients peuvent se plaindre d'un larmoiement. On peut parfois d'ailleurs proposer une intervention pour reperméabiliser la voie lacrymale.
Merci beaucoup, docteur Benjamin Verriot, d'avoir répondu aux questions autour de l'ablation de la pyramide nasale. Je rappelle que vous êtes ORL à l'hôpital Lariboisière à Paris. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Corasso.org.
Pour plus d'informations et poser vos questions aux spécialistes des cancers tête et cou, rendez-vous sur corasso.org, notre site dédié à l'information patient, aidant et soignant.